Nous sommes le premier dimanche du carême et notre itinéraire dans le désert du carême, pendant ces 40 jours donc, commence d'une façon logique avec la contemplation, la mémoire du péché originel, Adam et Ève au paradis terrestre et qui trouvent le moyen d'en être chassés. Jésus, de son côté, eh bien, va subir les tentations. Il faut constater, c'est toujours beau de se remettre évidemment dans la perspective de l'Éden. Nous avons été créés dans l'amour, dans une grande bonté, celle de Dieu, et dans une parfaite innocence. Et tous les arbres du jardin mis à la disposition par Dieu à l'homme et à la femme étaient suaves, étaient délicieux. Et ils en goûtèrent. Il n'est pas dit à quel âge, entre guillemets, ils ont péché. Ils ont eu le temps de vivre de leur innocence, Adam et Ève. Mais un jour, à un moment déterminé, mais que nous n'avons pas besoin de connaître, eh bien, ils se firent tendre ce piège par le tentateur et ils tombèrent. Tous les arbres étaient délicieux. Un seul était interdit, le bien et le mal, la connaissance du bien et du mal. Et au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas au milieu du jardin. Dans les traductions, ça peut prêter à confusion. L'arbre qui est au centre du jardin, c'est l'arbre de la vie. Il n'est pas dit à quel endroit se trouvait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sans doute un peu partout, c'est-à-dire chaque acte humain est géré par cette connaissance. Adam et Ève n'avaient pas encore mangé de l'arbre de vie, et Dieu d'ailleurs ordonne à l'ange à l'épée flamboyante d'interdire désormais l'accès du jardin d'Éden à l'homme et à la femme une fois chassés, parce que, dit-il, ils pourraient se saisir du fruit de la vie et vivre. C'est en relation avec la vie éternelle. J'en conclus qu'Adam et Ève avaient dégusté pas mal de fruits, ils avaient eu le temps, mais ils n'avaient pas encore atteint la maturité spirituelle qui leur aurait permis de manger du fruit de l'arbre de la vie. Or, ils étaient autorisés à manger du fruit de cet arbre, ce n'était pas interdit. Mais Dieu, semble-t-il, avait réglé notre nature de sorte que la maturité spirituelle soit le critère pour manger ce fruit-là. En revanche, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était purement et simplement interdit. On constate aussi que l'homme et la femme, par eux-mêmes, n'ont jamais cherché à pécher, à se détourner de la loi de Dieu, à se détourner donc de la communion avec Dieu. Il a fallu un tentateur pour ça, quelqu'un qui l'avait fait tout seul avant eux, à savoir le diable. Et c'est ce qui excuse d'ailleurs l'homme qui peut être racheté dès lors, mais racheté dans beaucoup d'amertume, à travers eh bien, une ascèse spirituelle qui est celle du combat. C'est ce que les 40 jours de Jésus au désert nous montrent. Il nous montre qu'il est inévitable d'affronter celui qui, au commencement du monde, a fait tomber nos premiers parents. Nous ne pouvons pas faire autrement qu'on ne peut pas s'échapper de ce combat-là. On ne peut pas essayer de regagner une pureté qui nous mettrait à l'abri du combat spirituel. En cette vie, c'est totalement impossible. Il y a un ordre. Il y a deux récits, celui qu'on a lu, là, de saint Matthieu, il y a aussi celui de saint Luc. Ils sont identiques, sauf que les deux dernières tentations sont inversées. Luc, lui, nous montre d'abord la haute montagne sur laquelle Jésus est emmené, et la troisième, pour lui, dans son ordre, c'est lorsque le diable place Jésus au sommet du temple. Comment comprendre un tel désaccord? Ben, la seule façon de le comprendre, c'est que chaque ordre est légitime. La première tentation est commune. T'as changé les pierres en pain. Ça, c'est les désirs de la chair, les appétits du corps. Ceux-là sont toujours là en premier. Et puis, ben ensuite, ça dépend. Ça dépend de l'ordre qu'on veut suivre. Apparemment, Matthieu, lui, regarde la conséquence, c'est-à-dire le commentaire que Jésus fait lui-même. Se prosterner devant le diable, c'est quelque chose d'ultime à ses yeux. Un seul Dieu, tu adoreras. Donc, il considère que le temple, ne pas tenter Dieu, cette fois-ci, c'est plus léger. Et donc, il met en dernier l'adoration du diable. Saint Luc, au contraire, nous dit que ce qui est ultime, c'est pas de se prosterner devant le diable, c'est de tenter Dieu. De tenter Dieu. Et je me demande, j'ai toujours préféré l'ordre de Saint Luc personnellement. Préférer, ça ne veut pas dire que c'est le seul ordre possible. On voit bien que dans l'ordre moral, l'ordre de Saint Matthieu est très bien. Mais Saint Luc, lui, il y a une progression qui se fait jour. On passe du plan corporel au plan psychologique, à la puissance qui nous amène d'ailleurs au niveau spirituel, dominer sur les royaumes de ce monde. Mais il y a pire que cela comme péché, c'est vouloir tenter Dieu, c'est vouloir se mettre au sommet du temple et faire n'importe quoi à partir de là, se comporter comme si on était un dieu. Et n'est-ce pas justement ce qui advint en Éden, lorsque l'homme et la femme, trop confiants dans l'amour que Dieu avait pour eux, dans l'harmonie au milieu de laquelle ils vivaient, eh bien, ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal pour devenir pareil à des dieux. C'est s'emparer de ce que Dieu veut donner, du don de Dieu, pour en faire quelque chose de personnel, pour se débarrasser de Dieu en quelque sorte. Se prosterner devant le diable ne donne que la puissance en ce monde, ses royaumes et leur gloire. C'est tous les hommes de pouvoir se prosternent devant le diable pour en avoir toujours plus. Et c'est vrai que dans le monde du pouvoir, il n'y a pas beaucoup de place pour l'amour, pour la charité. C'est l'indifférence, au pire, au mieux, dirais-je, au mieux l'indifférence envers les autres. Et ça peut bien sûr tourner à la haine pure et simple. La domination des choses de ce monde n'est pas ultime. Ce que la tentation de mettre sous ses pieds le temple, c'est-à-dire là où on adore Dieu, la maison de Dieu, et à partir de là se comporter comme si on était au sommet, comme si on était un Dieu, eh bien voilà la rupture, à mon sens, et au sens de Saint Luc, qui est la plus totale. Le désert, c'est le lieu où tout cela se révèle. On va au désert, on vit ce temps de carême pour s'intérioriser, et ce n'est pas s'intérioriser au sens bouddhiste du terme, renoncer à tous les désirs parce qu'ils sont source de souffrance, parce qu'ils sont source de frustration. Non, on va au désert pour appuyer là où ça fait mal. L'Esprit envoie Jésus au désert pour y être tenté par le diable. Oui, c'est bien pour appuyer là où ça fait mal qu'on va au désert, que l'Église nous invite à ces examens de conscience du carême. Le désert et ses trois grandes tentations, ces trois niveaux de notre être qui montrent bien toutes nos faiblesses. Demandons vraiment au Seigneur de remonter dans le temps, si c'est possible, de vomir. Nous voudrions bien vomir le fruit de la connaissance du bien et du mal, redevenir dans cet être d'une pureté originelle que Jésus nous montre lorsqu'il se présente devant nous dans les évangiles et nous contemplons cet être d'une pureté incroyable. Alors qu'est-ce que c'est qu'être pur ? Être pur, c'est être d'abord désintéressé. Être pur, c'est être évidemment complètement tourné vers Dieu et le mettre au-dessus de tout. Mais Jésus n'a pas vécu toute sa vie au désert, il a fait bien des repas avec ses disciples et tous ceux qu'il aimait, les hommes et les femmes qu'il a rencontrés. Mais Dieu restait au-dessus de tout. Au-dessus de ses disciples, il n'a pas rendu de petits services à côté. Tout était ordonné au salut. Être pur, c'est lorsque les gens pleins de haine viennent lui tendre des pièges, il les corrige, pas pour se venger, pas pour montrer qu'il est le plus fort. Non, il les corrige pour qu'ils s'amendent et qu'ils se convertissent. Il leur tend toujours la main, même s'il n'hésite pas à les dénoncer publiquement de par ailleurs. Être pur, c'est être sur une croix et être capable, eh bien, de ne pas condamner le monde, de ne pas condamner ceux qui l'ont mis en croix et qui l'ont condamné ainsi à la pire, au pire des rejets. Un cœur pur, c'est ce cœur pur de Jésus. Jésus a vécu dans le combat. Il a vécu au long des 3 ans, et saint Jean nous le montre bien dans son évangile, d'année en année, en ces 3 ans, l'opposition se fait de plus en plus dure vis-à-vis de lui. C'est comme un séjour au désert. Plus on y reste, plus la lumière vient, mais avec la lumière vient aussi les ténèbres. Elles viennent, ces ténèbres, parce qu'elles sont attirées en quelque sorte par la lumière. Non pas pour se l'approprier, mais pour la faire disparaître. Pendant ce carême, méditons sur la vie qui est si courte d'une part, sur ce qui fait que la vie a tant de saveur lorsqu'on sait la vivre à l'aune de l'amour et de la vérité, aussi de l'humilité. Parce que l'orgueil est quelque chose qui nous perd, qui empoisonne tous les plats les plus délicieux. Méditons toutes ces choses et méditons surtout la bonté du Seigneur, mort sur une croix pour nous sauver, qui s'est fait homme pour nous apprendre la véritable sagesse. Le carême aura produit tous ses fruits et nous aurons mangé, eh bien, tous les fruits qu'il nous propose lorsque nous serons appropriés, eh bien, toute cette beauté surnaturelle que le Seigneur vient nous apporter.